Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce mercredi 10 juillet. Table ronde autour du financement de la filière riz en Côte d'Ivoire le lundi à Abidjan. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont promis de renforcer la sécurité alimentaire. C'était en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Baccalauréat session 2024 en Côte d'Ivoire. Les établissements privés annoncent un taux de réussite de 70%. Face à ce pourcentage, la Fénéplasie s'en félicite et ce malgré les difficultés que ces établissements disent rencontrer. En page internationale, dans un rapport de l'ONU sur le M23, l'Ouganda refute tout soutien aux groupes rebelles dans l'est de la RDC. Puis, juste après la page internationale, vous aurez l'invité de la rédaction, Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, en compagnie de Francis Cassis, se prononcera sur un document de stratégie nationale, la boussole à partir de laquelle des populations devront désormais lutter contre la corruption. Voilà pour l'essentiel. Une table ronde autour du financement de la filière du riz en Côte d'Ivoire s'est tenue le lundi à Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien des partenaires de la stratégie nationale de développement du riz. Cette rencontre a été présidée à Abidjan par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Les détails de ce compte rendu de Jean-Claude Mabéa.
La Côte d'Ivoire veut assurer la couverture de ses besoins de consommation par la production nationale de riz blanchi de bonne qualité, constituer les stocks de sécurité et exporter le surplus à travers la stratégie nationale de développement de la filière riz, selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobinan Kwasi Adjoumani.
Le financement de la SNDR 2024-2030 et sa mise en œuvre effective contribueront à faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de souveraineté alimentaire à travers la couverture totale des besoins nationaux en riz de bonne qualité, en quantité suffisante et à des prix accessibles à partir de la production locale.
La dizaine de partenaires techniques et financiers a réitéré sa volonté d'appuyer la SNDR 2024-2030, a fait savoir le vice-président du groupe de la Banque mondiale, Ousmane Diagana.
Notre institution est prête à soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ensemble des partenaires pour renforcer la sécurité alimentaire. Nous saluons le plan du gouvernement visant à atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2027.
Aux partenaires techniques et financiers, le Premier ministre a dit ceci. Robert Begré-Mambé.
Les résultats de la SNDR 2024-2030 feront l'objet de revues périodiques au cours des comités interministériels des matières premières que je vais présider moi-même.
Le financement de la SNDR 2 est estimé à 798 milliards de francs CFA, dont 331 milliards dans sa première phase prévue de 2024 à 2027.
C'est aussi l'actualité, on en parle dans ce journal. Les auditeurs de la troisième promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gonkoulibaly ont reçu leur certificat le lundi à Abidjan. Cette rencontre s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et des représentants des institutions de la République. Le compte-rendu de Mel Emmanuel.
Prenant la parole, le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gonkoulibaly a rappelé les conditions dans lesquelles les auditeurs de la troisième promotion ont été sélectionnés. Mamadou Touré.
Pour cette année, nous avons eu près de 1500 jeunes qui ont compéti. Plusieurs jours de présélection choisis parmi les meilleurs. Et donc les 60 qui vous seront présentés tout à l'heure sont les meilleurs parmi les 1500.
Bintou Diarra, délégué de la troisième promotion des auditeurs de l'IFPAGC, a, au nom des récipiendaires, exprimé la satisfaction qui est la leur quant aux acquis de la formation.
À tous les niveaux, nous sommes satisfaits parce que nous avons eu beaucoup de formateurs de qualité et des modules tels que la géopolitique. Comment se tenir devant un média? Parce qu'en tant qu'homme politique, nous sommes amenés à parler devant des personnalités et représenter dignement notre parti pour ceux qui sont dans des partis politiques et nous qui voulons être de la société civile à représenter nos organisations.
Le représentant du vice-président de la République, patron de la cérémonie, a de son côté prodigué des conseils aux récipiendaires, Gilbert Koné-Kafana.
J'aimerais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour avoir opté pour la voie de la formation de du renforcement des capacités afin de mieux servir vos convictions. Je vous encourage donc à poursuivre votre chemin avec détermination et intégrité.
Rappelons que le 8 juillet de cette année marque l'an 4 de la disparition de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et que la cérémonie de graduation de l'institut qui porte son nom a été précédée et suivie de panels lui rendant hommage.
Promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie en Afrique. L'ONG Africa Tiviste, basée à Dakar au Sénégal, a initié un prix dénommé Prix du champion de la gouvernance et de la démocratie pour récompenser la personnalité ou l'organisation africaine qui aurait le plus agi pour l'avancement de la cause de la bonne gouvernance et de la démocratie. Sur les raisons du lancement d'un tel prix, suivons les explications de Aïcha Dabo, coordinatrice du programme à l'ONG Africa Activiste, joint à Dakar par Jean-Claude Comé.
En fait, nous avons voulu, en tant qu'organisation de la société civile africaine, avec d'autres organisations africaines de la société civile, nous avons voulu mettre en avant en fait les valeurs et principes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est bien de parler de ce qui ne marche pas, mais il y a des personnes et des institutions dans les différents pays qui ont eu à se démarquer par leur position, par leurs actions. Donc c'est pourquoi nous avons lancé cette initiative de champion de la gouvernance et de la démocratie en prenant en compte les 38 pays qui ont ratifié la Charte africaine de gouvernance. Donc, nous avons eu 38 pays, nous avons eu différents candidats et c'est ainsi qu'après un processus, une longue consultation avec des noms reconnus de la société civile africaine que nous sommes arrivés à une sélection de 5 individus et institutions. Ça, c'est le premier vote pour la présélection. Donc actuellement, il y a le vote du public qui est en cours sur notre site qui est democratie-champion.net. Donc pour que les citoyens africains aussi prennent part à cette initiative-là qui est une initiative de la société civile pour qu'ils puissent porter leur choix sur une des 5 personnes et institutions qui ont été choisies.
Aïcha Dabo, coordinatrice du programme à l'ONG Afrique Tiviste. Formalisé publiquement le 2 mai 2023, une année après l'alliance entre le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP et le Front populaire ivoirien FPI, semble prendre du plomb dans l'aile avec des signes de fissure apparus ces derniers jours pour Dr. Flan Moké-César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Deux éléments sont à prendre en considération pour une bonne compréhension de cette situation.
L'histoire politique. La Côte d'Ivoire nous a montré qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Et ça fait partie même de la terminologie de la science politique ivoirienne. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Et on a assisté au fait que le FPI et le RHDP se soient rapprochés. Je pense plutôt à une entente tactique, mais il est clair que les dissensions qui apparaissent ou alors les positions qui se prennent sont consécutives au fait qu'il est difficile pour ces deux entités de s'entendre sur les questions. Est-ce parce que, au moment de sceller cette alliance, quand je prends le Front populaire ivoirien qui est allé à la négociation, on sait bien que quand on est en négociation, il y a à la fois deux éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, le degré de confiance. Deuxièmement, le rapport de force. Visiblement, dans cette tentative d'alliance entre le FPI et le RHDP, le rapport de force était en faveur du RHDP. Par conséquent, l'élément qui n'a pas le rapport de force en sa faveur se met dans une position de demande. C'est ce à quoi nous avons assisté et qui a donné naissance à cette alliance entre le RHDP et le FPI. Au fil du temps, nous nous rendons compte que cet accord peine véritablement à se maintenir. Je pense que, sans doute, chacune de ces deux parties ne voit pas en quoi une telle alliance pourrait être véritablement profitable.
Docteur Flan Moké-César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. 34,17%, c'est le taux national de réussite au baccalauréat session 2024. Nous le disions au titre et ses résultats ont été rendus publics le lundi dernier par la direction des examens et concours, la DECO, des résultats qui sont le fruit des actions conjuguées de tous les acteurs de l'éducation nationale, qu'ils soient du public ou du privé, estime Effinistand Betty, porte-parole de la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements privé laïque d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire.
Dans l'ensemble, nous pouvons dire que les établissements privés ont tiré leur épingle du jeu malgré les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette année 2022-2023. Bon, c'est vrai, nous n'avons pas encore le classement général effectué par la DECO, comme cela a été le cas pour le DPC, mais ça est là, lorsque nous recueillons quelques informations de nos pairs, nous pensons que dans l'ensemble, les établissements privés ont tiré leur épingle du jeu. C'est vrai, le pourcentage a connu une légère hausse, certainement qu'on aurait pu faire mieux, mais lorsque nous regardons les efforts qui sont faits par les uns et les autres, nous estimons que nous avons tiré notre épingle du jeu dans la mesure où à peu près 70% des candidats au moins sont issus du privé. Ce qui veut dire que cette politique d'école obligatoire prônée par l'État est financée en grande partie par les privés. La question qu'on doit se poser, en retour, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que lorsqu'on voit que les établissements privés traînent des arriérés de frais de scolarité, par exemple au titre de 2022-2023, à plus de 70%, c'est pas payé. Ou les élèves pour lesquels les résultats viennent d'être donnés, donc qui ont été évalués en 2023 et 2024, aucune décision de paiement. C'est dire qu'effectivement, nos pairs font des efforts pour contribuer à l'accroissement du taux de réussite au niveau du BPC comme au niveau du BAC.
Et Finistan Betty, porte-parole de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire. Concernant toujours les résultats du bac 2024, le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appelle toute la communauté éducative à une rétrospection sur ce taux, quoique en hausse, par rapport à celui de 2023. Boton Bouquet, Jean-Roger.
Oui, c'est déjà en haut. Cette année 34, ça pouvait être moins. Nous prenons à cela avec beaucoup de circonspection. Le travail doit se faire du côté des parents, du côté des élèves et du côté de l'État de Côte d'Ivoire qui a la charge de l'éducation et de la formation de l'élite de demain, du citoyen de demain. On prend ça avec beaucoup de circonspection. Ici et là, c'est la joie. Et ici et là également, certains élèves sont rentrés tout tristes. Autant les parents que nous sommes, autant l'éducation, les premières autorités et autant les élèves, il faut avoir raison garder. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Les parents payent des coûts de renfort. Les élèves s'organisent pour travailler ensemble. La pression qu'on a le jour de l'examen. Et tout ça a eu un effet négatif sur vous. Il faut savoir raison garder et espérer que l'année prochaine serait la meilleure.
Boton Bouquet, Jean-Roger, président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé à l'ouverture du poste de péage du 4e pont de Yopougon le 1er juillet dernier. Cette ouverture suscite la réaction des usagers qui empruntent cet important édifice routier. Le point avec Jean-Mélène Bitti.
Le 4e pont d'Abidjan, ouvert à la circulation le 10 janvier dernier, a connu une nouvelle étape importante le 1er juillet 2024 avec l'ouverture officielle de son poste de péage. Sur le terrain, quelques usagers interrogés n'ont pas manqué de revenir sur l'utilité de cet ouvrage dans leur quotidien.
Voici Kwame Joseph. En effet, le 4e pont nous donne assez d'avantages en termes de temps, en termes de consommation de carburant. Donc on fait une économie. Et puis en termes de fatigue et d'environnement.
C'est Guy Bamba, je suis commerçant. Franchement dit, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir et puis ça me fait beaucoup gagner en temps. Parce que j'habite Yopougon, donc si j'ai un coup, ça fait à 13 villes, Makori, Poboué, je gagne plus en temps. Puisque sur l'autoroute, j'ai toujours des bouchons. Et là, j'ai payé seulement que 500 francs, puis c'est parti.
Plus tôt, le 1er juillet 2024, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé à l'ouverture officielle du poste de péage.
Ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, Atékoubé, Adjamé et le plateau. C'est vrai qu'il y a une seconde phase du projet qui va se poursuivre jusqu'aux sapeurs-pompiers, mais en tout cas, nous sommes très 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 satisfaits.
Cet ouvrage long de plus de 6 km va faciliter les déplacements entre les communes de Yopougon, Adjamé, Atékoubé et Plateau. Les prix varient de 500 francs CFA à 3000 francs CFA selon les catégories.
Or, hors de nos frontières, l'Ougandani, tout soutien aux rebelles des M23 dans l'est de la République démocratique du Congo après la publication d'un rapport de l'ONU le lundi 8 juillet. Selon des experts onusiens, les renseignements militaires ougandais ont permis aux troupes du M23 ainsi qu'aux troupes rwandaises qui les soutiennent de transiter sur le territoire ougandais. Ce rapport affirme également que l'Ouganda a permis à des responsables de la rébellion du M23 de séjourner à Kampala, des allégations catégoriquement rejetées par le porte-parole de l'armée ougandaise. Selon ce dernier, ce rapport n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé, juge qu'il n'y a aucune raison de soutenir ces rebelles alors qu'ils font partie des mécanismes régionaux pour la résolution des conflits dans l'est de la RDC. L'invité de la rédaction de ce jour est le président de Civis Côte d'Ivoire, association d'éducation à la citoyenneté. Docteur Christophe Kouamé se prononce aujourd'hui sur le document de stratégie nationale qui est la boussole à partir de laquelle les populations devront désormais lutter contre la corruption. Docteur Christophe Kouamé répond aux questions de Francis Cassi.
Docteur Christophe Kouamé, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi la stratégie nationale contre la corruption?
Dans le cadre de la lutte contre la corruption que la Côte d'Ivoire a engagée depuis quelques années, il fallait un document unique d'orientation stratégique pour que toutes les institutions, toutes les parties prenantes du pays puissent tirer à l'intérieur de ce document matrice leur stratégie cadre. C'est ce document qu'on appelle la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil des ministres, a donné un avis positif à ce document.
Alors donc, ce document sera utilisé jusqu'à quand?
Dans le principe, sur le document, l'entité administrative qui ici est la haute autorité pour la bonne gouvernance et le gouvernement décideront du temps que ce document va mettre et sera utilisé par tous.
Alors, ce document va donc lutter contre la corruption, la partie publique de l'administration ou aussi dans le secteur privé?
En réalité, la stratégie nationale de lutte contre la corruption est la stratégie matrice de toute la Côte d'Ivoire. L'administration publique, le privé et la société civile ont leur part écrite là-dedans. Dans le document, chaque partie prenante qui est censée lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire a une part dédiée. Donc, il aura pour le privé, il aura pour la société civile, il aura pour l'administration publique. C'est pour cela qu'on l'appelle la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
Donc, qui doit lutter contre la corruption?
En réalité, dans la lutte contre la corruption, il y a trois grandes parties. Il y a la prévention, il y a la détection et la répression. Si on s'arrête sur la répression, vous verrez que la répression est judiciaire et juridique à travers le ministère de la Justice. Quand on parle de détection, vous avez la dénonciation. Donc, les lanceurs d'alerte qui sont des individus du privé, du public, des entités simples ou des citoyens lambda. Vous avez au niveau de la dénonciation des organisations de la société civile, l'élève qui va faire un examen et on lui met en face un élément de corruption. Dans la prévention, il y a les réformes juridiques et institutionnelles qui vont faire que les pratiques de corruption vont cesser à travers des documents, des chartes, des codes de conduite.
Mais c'est quoi la corruption dans le service public?
L'ONG Transparency International, qui est numéro un mondialement connu, dit que la corruption, c'est l'utilisation par un individu dans le privé comme dans le public du pouvoir qui lui est donné dans son administration à son profit personnel et non au profit de l'intérêt général. Cette définition ouvre en effet la corruption sur des éléments qui sont financiers ou non financiers.
Donc c'est par ce document seul que tout le monde doit lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, ou bien on peut le faire aussi autrement?
Dans le document, vous avez le public qui aura sa part, vous avez le privé qui aura sa part, vous avez la société civile qui a sa part, vous avez même les partis politiques qui ont leur part, vous avez la presse qui a sa part. Ça veut dire que ce document, il a été fait pour que toutes les entités de Côte d'Ivoire qui sont censées obligatoirement lutter contre la corruption ont leur part de stratégie dans ce document-là qui va être bientôt publié.
Alors, quand vous dites que chaque secteur a sa part, la presse a sa part, les ONG ont leur part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse aussi, on doit la contrôler pour voir s'il y a de la corruption en son sein?
Non, ce n'est pas dans ce sens. Toutes les entités que j'ai citées représentent la République de Côte d'Ivoire. La presse a obligation de lutter contre la corruption. Donc, Le journaliste peut dénoncer la corruption de son collègue. Le journaliste peut dénoncer la corruption de l'administration publique. Le journaliste peut dénoncer la corruption lors d'un contrat de marché public entre le privé et le public. Les partis politiques identiques, un policier ou n'importe qui dans le pays qui est informé d'une corruption quelque part a obligation citoyenne de dénoncer cette corruption.
Quand on parle de dénoncer, la plupart du temps, les gens disent que c'est pour les petits qu'on dénonce, mais pour les grands, ceux qui font la politique, on ne peut pas les dénoncer.
Je suis contre cette assertion. Je demande à tous les citoyens, je demande à tous les journalistes d'utiliser nos institutions juridiques, de les saisir et d'attendre la suite. Il faut éprouver le système juridique. Pour le moment, nous venons de saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre des lois du code pénal. Et il y avait des articles incriminés comme l'article 185. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour restriction des libertés. Avant la saisine, nous avons été informés par plusieurs citoyens que le Conseil n'allait pas répondre. Le Conseil a répondu.
Et le Conseil a répondu quoi?
Le Conseil a répondu que notre saisine était recevable, mais le Conseil dit qu'il y a 5 ONG qui l'ont saisie et il y a une seule ONG, c'est-à-dire Civis Côte d'Ivoire, qui a son document du journal officiel et son récépissé. Quand nous aurons toutes les inscriptions au journal officiel de Côte d'Ivoire, nous repartirons pour ressaisir le Conseil sur les mêmes arguments d'inconstitutionnalité de ces articles de loi.
Docteur Christophe Kwame, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, invité de la rédaction, était interrogé par Francis Cassier. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Table ronde autour du financement de la filière du riz en Côte d'Ivoire le lundi à Abidjan. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont promis de renforcer la sécurité alimentaire. C'était en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré Mambé. Baccalauréat session 2024 en Côte d'Ivoire, les établissements privés annoncent un taux de réussite de 70% de ces établissements. Face à ce pourcentage, la Fénéplacie s'en félicite et ce, malgré les difficultés que ces établissements disent rencontrer. Fin de ce journal, la rédaction sera de retour à 15h pour le flash. Pour leur suivre, la revue de presse présentée par Jean-Claude Comé sur Radio de la Paix.
Bonjour à tous. C'est une floraison de sujets qui nous est donné de